Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique et journaliste confiné. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, retour sur un des premiers thèmes abordés. Le métal. Dans ma première émission sur le sujet, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore fait, je me demandais si le métal était le nouveau classique. Parce qu'il y a de nombreux points communs entre les deux genres. Dans la forme, il y a une recherche de maîtrise instrumentale qui se traduit par la virtuosité à la guitare. Il y a une recherche de puissance, ce qui peut pousser certains groupes de métal à jouer avec des orchestres symphoniques. Sur le fond, il y a des thématiques communes et on retrouve dans beaucoup de chansons de métal la sensibilité romantique. Il y avait vraiment beaucoup à dire sur ces similarités, et il y a un point que j'avais laissé de côté, c'est la technique vocale. Les deux genres demandent un travail extrêmement poussé sur la voix. Je m'en suis rendu compte quand je suis tombé sur l'étonnant parcours de Marina Viotti. Marina est une chanteuse franco-suisse de 33 ans. Aujourd'hui, elle est mezzo-soprano lyrique, mais il y a quelques années, elle chantait dans un groupe de métal. Elle est passée de ça... le morceau Les Mouches avec son groupe Soulmaker, à ça, concert de confinement sur Instagram, La Splendeur Vide de Camille Saint-Saëns. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis posé beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on passe des concerts survoltés du métal au monde feutré de la musique classique? Est-ce qu'on n'abîme pas sa voix en chantant du métal? Est-ce que le public du classique, parfois très conservateur, a accepté cette reconversion? Bref, comment est-ce qu'on peut réussir ce qui semble être un grand écart, un véritable retour vers le classique? D'habitude, je vous parle de la façon dont le classique influence l'art actuel. Là, c'est l'inverse, comment le passage par le rock peut permettre d'arriver au classique. C'est plus rare dans ce sens-là, mais il arrive que la pop culture et ses codes influencent la musique classique d'aujourd'hui. Et c'est l'occasion de continuer à casser les clichés sur le classique. Non, les musiciens d'aujourd'hui ne sont pas déconnectés. Pour commencer l'entretien, j'ai demandé à Marina, qui vient d'une famille de musiciens classiques, comment elle s'était retrouvée dans le milieu du métal.
Alors, je suis arrivée dans le milieu du métal par l'intermédiaire de collègues de l'orchestre. À l'époque, j'étais flûtiste dans un orchestre d'harmonie. Et mes collègues avaient créé un groupe de métal symphonique. Pour moi, c'était évidemment, comme beaucoup, le cliché, le métal, c'est du bruit. Et ils m'ont proposé de changer d'avis en allant voir un concert de métal symphonique avec une chanteuse lyrique. J'ai accepté d'y aller parce que j'ai quand même toujours été assez curieuse de nature. Et j'ai pris une grosse claque. J'ai vu cette femme, c'était Flori Jansson, qui est aujourd'hui la chanteuse de Nightwish, avec une énergie incroyable, une technique vocale exceptionnelle, et puis ce mélange de grosses rythmiques à la guitare et à la batterie, avec en plus des orchestrations classiques. Enfin, vraiment, le tout était extraordinaire. Et ensuite, ils m'ont proposé de rejoindre leur groupe. À l'époque, ça s'appelait Lost Legacy. Et j'ai accepté, j'aurais dû être guitariste à l'époque, mais j'étais pas très douée. Et finalement, j'ai été la chanteuse du groupe, parce qu'on n'en trouvait pas et que je savais plus ou moins chanter. Et du coup, c'est là que tout a commencé.
Marina m'a ensuite raconté son quotidien avec Soulmaker, un groupe qu'elle a rejoint en 2007.
Quand j'ai commencé à faire partie du groupe Soulmaker, qui était vraiment un groupe de très bonne qualité et un groupe sérieux, on a enregistré deux EP et un album. J'étais en hippocagne à l'époque, donc en prépa littéraire. Donc je faisais la prépa, les week-ends en général c'était répétition et concert. Mon groupe était de Belfort, donc on faisait pas mal d'allers-retours, j'étais beaucoup dans ma voiture. On avait des concerts un peu partout en France, de plus ou moins grande échelle. Donc c'était vraiment toute une organisation. Souvent, ils m'envoyaient les compos, les nouvelles à la maison. Moi, j'essayais de mettre du texte et une ligne vocale dessus. Ensuite, on se retrouvait le vendredi soir, on répétait cette chanson et on essayait de l'inclure pour le samedi ou le dimanche ou le week-end d'après. Donc c'était un groupe très très professionnel, donc avec de très bons musiciens qui avaient tous chacun des enfants, un métier, mais on faisait ça avec beaucoup de professionnalisme et d'amour. Et donc on a eu la chance de pouvoir faire des tournées. Et moi, en parallèle, j'organisais aussi des concerts à Lyon avec une association que j'avais créée. Je participais à plein de choses. J'ai travaillé pour Season of Mist, la maison de disques métal, le label. Je me suis vraiment impliquée à 100%.
L'album sort en 2010. Il est plutôt bien accueilli par la communauté qui relève deux forces, la voix de Marina et ses textes, la plupart sont en français, deux éléments qui ressortent dans un univers très masculin et majoritairement anglophone. Mais Marina finit par quitter le métal, elle veut devenir chanteuse lyrique. Je lui ai demandé pourquoi.
En fait, mon père est mort, c'était un grand chef d'orchestre, et je ne voulais plus écouter de musique classique après pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu plusieurs déclencheurs. Il y a eu un concert où j'étais directrice marketing, un concert classique pour mes études de commerce, en fait, j'étais à Marseille. Et dans ce concert, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au bon endroit. J'avais envie d'être sur scène et pas derrière la scène. Et donc il y a eu ce stage qui était obligatoire et où je me suis retrouvée à devoir faire face à cette musique de nouveau et à me rendre compte à quel point elle m'avait manqué. Et il y a eu cet opéra à Vienne, mon frère était dans l'orchestre. Et là, j'ai fondu en larmes à la fin et j'ai dit « mais c'est ça en fait que je veux faire depuis toujours ». Et ce qui a été très dur, évidemment, ça a été de quitter mon groupe qui commençait vraiment à avoir son essor. C'était le moment où il fallait passer à la vitesse supérieure. On nous proposait des tournées en Amérique latine, en Asie. Ça a été un crève-cœur, hein, parce que ce sont des gens avec qui j'ai passé tellement, tellement d'années, d'expériences incroyables. Donc, c'était aussi très difficile de dire au revoir à tous ces gens qui nous avaient suivis. Il y a un vrai... une vraie communauté, une vraie base de fans, mais qui deviennent des amis, qui nous suivent partout. Il y a toujours eu une espèce d'admiration et d'envie, en tout cas, du métal vers la musique classique, notamment le baroque, la musique médiévale, la musique de la Renaissance et la musique de Wagner. Il y a beaucoup de ponts qui sont faits et les métalleux sont des gens très, très ouverts et qui ont, enfin, pour la plupart, et qui ont une vraie admiration pour cette musique. Et moi qui avais tellement peur de perdre toute cette communauté qui était vraiment une famille, j'ai été tellement heureuse de voir qu'en fait ils sont toujours là. Et ça, c'est un bel exemple d'ouverture d'esprit.
Sauf que cette reconversion a failli ne jamais avoir lieu.
Et oui, j'arrive à Vienne en me disant c'est maintenant ou jamais le chant lyrique. J'ai presque 25 ans et toutes les écoles me ferment leurs portes en me disant que je suis trop âgée, que c'est trop tard. Il y a une prof qui a cru en moi, c'était Heidi Brunner. Moi, faut imaginer, hein, Vienne, c'est quand même un des bastions du conservatisme. Enfin, c'est très, très, très basé sur comment, à quoi on ressemble aussi, l'apparence. Et moi, j'arrive, j'ai les cheveux XXL noirs avec une frange noire, j'ai des tatouages, j'ai des piercings, j'ai des écarteurs dans les oreilles, je suis tout en noir avec des collants troués, enfin bon. Et je dis bonjour, je voudrais être chanteuse lyrique. Alors, c'était un peu compliqué. Donc, elle m'a dit, déjà, va falloir changer ton look parce qu'ici, ça passera jamais. C'était très dur pour moi de me dire qu'il fallait changer son apparence pour réussir quelque chose. J'étais contre cette idée. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que c'est pas notre look qui fait qui on est.
Une des caractéristiques du métal, c'est le growl, le chant guttural. Voilà ce que ça pouvait donner. Impressionnant, mais est-ce que ça ne finit pas par abîmer la voix ?
Alors non, alors c'est une question qu'on me pose souvent quand je dis que j'ai fait partie d'un groupe, et surtout quand je fais écouter ce que je faisais, parce que je chantais donc avec une espèce de fausse base lyrique hein, que j'imitais parce que je n'avais pas une vraie technique, mais je hurlais aussi, ça veut dire je chantais avec une technique de growl. Il y a plusieurs techniques de growl, on peut chanter en saturé, très guttural, c'est-à-dire vraiment un son qui part des tripes et qui est hurlé, mais qui est très contrôlé. C'est une vraie technique. Il faut quand même imaginer que beaucoup de chanteurs sont sur scène quasiment un jour sur deux et chantent pendant 2 heures comme ça et se fatiguent pas. C'est très clair, hein. Vous testez chez vous et vous voyez, quand on est chanteur, jeune chanteur, on se dit, bon, alors là, si je chante comme ça, ça va pas le faire. Au bout de 10 minutes, on n'a plus de voix. Par contre, si je trouve un peu une position plus basse, plus haute, enfin, j'en sais rien, là, ça marche. Et moi, j'ai trouvé ma technique, enfin, celle qui m'allait le mieux, c'est ce qu'on appelle le chant reverse. C'est-à-dire qu'en fait, on crée ce chant saturé en inspirant le son. Bon, je vais vous faire un petit exemple, mais là, il est 10h du matin, ça va être un peu compliqué, mais au lieu de faire là, on crie, on fait. Donc là, j'inspire le son. Et ça, imaginez que je mette tout le paquet dessus et que je m'entraîne pendant 2 semaines et que j'ai un micro, ça a un effet énorme. Et après, on peut presque faire même des gammes avec ça. On peut parler, on peut faire du texte. C'est cette alternance entre chant saturé et chant clair qui était le plus dur à faire, en tout cas dans mon groupe, et qui m'a permis aussi d'avoir un peu mon identité et ma petite touche personnelle. Parce qu'il y a peu de femmes, en fait, qui peuvent faire les deux. Et c'est aussi ce qui a empêché mon groupe, après, malheureusement, de trouver une remplaçante. Ça ne m'a pas du tout abîmé les cordes, ça me les a vraiment renforcées. J'ai des cordes quand même hyper solides qui font quand même, quand je suis très malade, en général, je peux toujours quand même chanter. Mais il y a eu quand même suspicion, hein. Quand je suis arrivée dans le milieu de l'opéra, on m'a quand même demandé, avant d'aller prendre mes cours de chant, d'aller faire une radio, d'aller checker mes cordes vocales, parce que quand ma prof m'a fait chanter une chanson de mon groupe, pour qu'elle voit un peu où j'en étais techniquement, et que je lui ai fait une chanson en hurlant dans son salon magnifique de Vienne. Il y a eu une petite surprise quand même, hein. C'était assez drôle avec le recul. Cette prof, c'est toujours aujourd'hui une de mes profs que je vais voir régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle m'a dit mais comment t'as fait pour chanter si tant d'années sans t'abîmer la voix, c'est pour ça qu'elle m'a dit chante-moi quelque chose. J'ai chanté une de mes chansons, donc a cappella. Et autant le chant saturé, ça lui a fait peur, autant quand j'ai chanté clair, elle m'a dit « Mais en fait, on a beaucoup moins de travail que je pensais, parce que sans le savoir, tu as une technique lyrique, qui est là, une posture en fait, une position de voix. » Et c'est simple, quand je m'entraînais chez moi et que je voyais que j'étais à faune au bout de 10 minutes, j'ai essayé de trouver une place en fait dans mon corps, dans ma voix, qui pouvait me permettre de chanter pendant 2 heures sans fatigue, et sans le savoir, c'était la place lyrique que j'ai choisie. Donc c'est assez incroyable, et je connais beaucoup de collègues chanteurs de métal qui font ça depuis plus de 15 ans et qui ont une voix hyper saine parce que de la même façon, ils ont trouvé leur technique. C'est pas juste du hurlement ou du chant approximatif.
Et globalement, ces deux univers musicaux font très attention.
Ben, le chant métal a des points communs avec le chant lyrique, notamment par justement ce côté très sérieux. Quand en tout cas, on a un groupe qui tourne beaucoup, on doit avoir une vie hyper saine. Même si on a toujours l'image du métalleux, bon vivant, qui boit beaucoup de bière. Alors oui, hein, ça c'est vrai, moi j'en ai énormément bu. Il y a peu de drogue, très peu d'autres substances, mais c'est vrai que la bière, ça fait vraiment partie du folklore. Avant les concerts, les chanteurs, comme n'importe quel autre chanteur, doivent beaucoup dormir, doivent manger sainement, doivent essayer de se reposer, travaillent leur voix, travaillent leur corps, ne boivent pas, ne fument pas, enfin voilà. Après, il y a des chanteurs lyriques qui fument et qui boivent. Il n'y a jamais de règles.
Après cette partie sur la technique, nous avons discuté de ce qu'implique ce passage étonnant. J'ai d'abord demandé à Marina ce que lui avait apporté cette période de sa vie.
Ce passage dans le métal, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a apporté déjà... C'était vraiment une thérapie pour moi, parce que comme je venais de perdre mon père, le fait de pouvoir hurler ma peine et la balancer sur scène, c'était extraordinaire, c'était une catharsis. Après, ça m'a apporté une certaine confiance aussi, parce que quand on est une femme dans le milieu métal, il faut avoir du caractère, il ne faut pas se laisser faire. Donc ça m'a donné ce côté un peu... j'ai suffisamment de caractère pour me faire respecter. Voilà, de la même façon, être une front woman, haranguer la foule, enfin voilà, c'est des choses... J'ai pas peur de la scène, j'adore la scène, ça m'a vraiment permis d'avoir cette aisance peut-être sur la scène. Et puis l'expérience du studio, l'expérience de la tournée, ça m'a peut-être aussi permis de relativiser énormément. Par exemple, le métal, c'est un milieu qui a très peu d'argent, donc on est souvent logé dans des conditions quand même pas folles. Hein. Nombre de fois où on dormait tous dans la même chambre, un sur le canapé, un sur un matelas par terre, enfin voilà... avec très très peu de confort, mais avec des gens passionnés. Du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je suis peut-être beaucoup moins difficile que d'autres collègues parce que je suis passée par là, donc je sais ce que c'est des mauvaises conditions. Et ça m'a donné un côté rock'n'roll, ça c'est sûr. Ça m'aide beaucoup, en fait, ouais, à casser les codes de l'art lyrique. J'espère en tout cas pouvoir être un peu un porte-parole du fait que c'est possible de faire plusieurs genres de musique, plusieurs styles, sans que ça empêche la qualité de l'un ou de l'autre. C'est un peu la mission que je me donne de permettre de changer l'image aussi de la chanteuse lyrique, un peu surannée, un peu coincée, un peu inaccessible. Pour moi, c'est tout l'inverse. Il faut qu'absolument les gens se rendent compte que la musique classique, ça peut être cool, ça peut être jeune, c'est moderne, ça n'a pas de temporalité, c'est un langage universel. Le fait d'avoir cette image de celle qui a fait du métal avant, ça peut peut-être me permettre de toucher un public plus large et de leur montrer, en fait, de leur faire découvrir tout simplement différents mondes.
Comme je le disais en introduction, en découvrant ce parcours, je me suis interrogée sur la réaction du public classique.
J'avais un peu peur aussi de ça. Au début, j'en ai pas trop parlé. Mais en fait, c'est vraiment une force. Et c'est quelque chose qui les fait un peu rire, qui les intrigue. Et finalement, moi qui pensais être un cas un peu unique dans le métier, je me suis rendu compte qu'on était très très nombreux. Il y a énormément de chanteurs, même très très connus, d'opéra, qui ont fait du rock avant, qui ont été guitaristes, bassistes, chanteurs. Je dirais que sur chaque production que je fais dans l'opéra, il y a au moins deux collègues qui sont passés par là. Et du coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus accepté et même, je dirais, qui fait vraiment notre force, notre personnalité. Il n'y a pas si longtemps, j'ai chanté dans Rigoletto à Munich avec le très, très grand baryton Ludovic Tézier qui me disait que lui, il travaille tous ses airs d'opéra à la Gibson avec sa guitare. Donc je me dis, c'est extraordinaire, en fait, à quel point, finalement, il y a des ouvertures, des ponts qui se créent. Et ça, c'est pour moi une chose essentielle, en fait. C'est de surtout pas s'enfermer dans le carcan, que ce soit du métal, de la musique classique, et de pas enfermer les gens et les mentalités là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'a priori sur certains genres. Je pense que beaucoup de gens du classique ont beaucoup d'a priori sur les métalleux. Beaucoup de métalleux ont des a priori sur d'autres genres. Et en fait, il y a beaucoup plus de ponts qu'on ne croit entre les styles, entre les genres et entre les gens. Régulièrement, en fait, du coup, je fais découvrir le métal symphonique à des fans de musique classique qui n'en avaient jamais entendu parler et qui du coup, après, s'achètent des albums. Et inversement, j'ai encore beaucoup de contacts dans le milieu du métal et je sais que j'ai pas mal d'amis qui n'étaient jamais allés à l'opéra. Et quand je fais une prod où la mise en scène est super, comme là, c'était le cas, par exemple, du Barbier de Séville à Strasbourg, de Pierre-Emmanuel Rousseau, bah, j'ai invité beaucoup, beaucoup d'amis métalleux et ils ont adoré parce que c'est drôle, parce que c'était beau à voir. Fallait les voir, ils avaient mis leur t-shirt Soulmaker, ils sont là avec leur look improbable et puis quand même un costard par-dessus. Et puis leur piercing, leur tatouage et puis en même temps, à la fin, leur petite larme à l'œil. C'est ça que je trouve beau en fait. C'est ce pont qui se crée entre ces genres et entre les gens. Et moi, ça me touche énormément.
Pour continuer à construire ces ponts, Marina est en train de développer plusieurs projets avec de la musique actuelle.
J'ai un projet de cabaret où c'est un peu un one-woman show, mais chanté. J'en ai un qui fait voyager le public à travers plein de musiques différentes sur un thème, donc c'est une histoire. Moi, je leur parle, je les fais participer, je suis un personnage avec tous mes musiciens qui sont eux aussi des personnages. Qui s'appelle Love Has No Borders. Et j'en ai un autre qui s'appelle Mélancolia, qui là, pour le coup, est un peu un retour aux sources parce que c'est très, très gothique. C'est avec luth et musique électronique, instruments électroniques. Ça se fait surtout dans les églises. C'est à propos du thème de la mélancolie. On part de John Dowland et on le relie à plein d'artistes qu'on trouve mélancoliques. Et on fait dialoguer, en fait, plusieurs univers de nouveau. C'est très dark et c'est très beau. You and I, we were born to die.
Ça, c'est un extrait du spectacle Mélancolia, une chanson de Lana Del Rey accompagnée au luth. John Dowland, c'est un compositeur britannique de la Renaissance qui a beaucoup écrit pour cet instrument. Ce projet, est-ce que c'est un prélude à un retour vers le métal ?
Est-ce que je reviendrai au métal ? Bah, j'aimerais beaucoup faire des featuring en tout cas. Voilà, je lance un appel hein, s'il y a des groupes qui sont intéressés. Après, c'est toujours un problème de calendrier. Mais je peux vous dire que, bon, là, avec la situation actuelle, on n'est plus sûr, mais je devrais faire un concert Salle Gaveau à Paris, où il y aura un peu de métal qui reviendra avec la musique classique. Mais ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un des projets que j'attends avec le plus d'impatience.
Le monde de la culture souffre effectivement beaucoup de la crise sanitaire actuelle et impossible de terminer un entretien avec une artiste sans lui demander comment elle vit cette période.
Oui, alors il y a beaucoup de projets malheureusement qui sont mis entre parenthèses en ce moment. C'est dur parce que c'est incertain comme avenir pour nous les artistes, les freelance. On n'a pas vraiment de soutien financier. Moi, j'ai perdu déjà là 3-4 mois de contrat et probablement jusqu'à septembre, je ne vais pas travailler. Alors, ça m'empêchera pas de faire beaucoup d'autres choses, justement, de travailler sur des nouveaux projets, de construire des programmes, d'apprendre des nouvelles choses. Il faut se réinventer, il faut pas perdre l'espoir, il faut trouver une motivation pour continuer à chanter. Je trouve qu'aussi, on découvre l'utilité des réseaux sociaux et d'Internet. Il faut utiliser ces nouveaux moyens de streaming. Donc moi, j'explore, j'essaye de m'en servir le mieux possible pour que la musique ne s'arrête pas, pour que j'ai quand même toujours cette impression d'être un peu sur scène, de continuer à travailler ma voix pour quelque chose, pour des gens, pour les faire rêver, pour les évader un peu, pour le partage en fait. Voilà, je pense que le partage, c'est une valeur qui me parle beaucoup. Ça a été une vraie polémique hein, de savoir s'il fallait ou pas continuer à faire des concerts live streaming depuis son salon gratuitement, alors que on perd beaucoup d'argent, nous aussi les artistes, et je pense qu'il n'y a pas de question à se poser, il faut rester solidaire. Tout le monde fait des choses gratuitement en ce moment pour permettre justement aux autres de mieux vivre le confinement. Moi, je veux pouvoir en faire partie, et puis on verra les questions financières plus tard, quand tout aura repris. C'est là où on se rend compte à la fois du pouvoir du réseau social et à quel point c'est important pour que les gens restent connectés ensemble et soient moins seuls, et en même temps, peut-être aussi sa limite. Et le fait que moi, personnellement, après le confinement, j'ai hâte de retrouver le contact humain réel.
Après avoir commencé cet entretien avec du métal, on le termine avec Marina sur scène. Elle interprète un air de la Donna del Lago, la Dame du Lac, un opéra de Rossini. Pour résumer cet épisode, le parcours de Marina Viotti permet de se rendre compte que beaucoup de jeunes artistes de la musique classique d'aujourd'hui se nourrissent de la pop culture, soit parce qu'ils ont fait partie d'un groupe auparavant, ou alors parce qu'ils mènent en parallèle de leur carrière des projets annexes qui leur offrent plus de liberté en dehors des codes du classique. Des artistes qui sont désormais en lien direct avec leur public grâce aux réseaux sociaux. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Merci également à Marina Viotti d'avoir répondu à mes questions. Pour en entendre plus, je vous renvoie vers son compte Instagram, Marina Viotti Mezzo. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur l'article dédié à cet épisode les références que j'ai citées. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt.